VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 8 décembre 2015 à la une ce soir.
Au Mali, 3 personnes ont été tuées la nuit passée par un homme armé à Tombouctou.
Burundi, l'Union africaine veut envoyer des soldats africains sur place, mais a besoin du feu vert de Bujumbura.
Référendum au Rwanda, 6,4 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer aujourd'hui sur la réforme de la Constitution.
République centrafricaine, le chef rebelle du FPRC, Noureddine Adam, est activement recherché.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Au Mali, 3 personnes, dont un animateur de la radio chrétienne Tanit, ont été tuées cette nuit à Tombouctou. Un homme armé les a assassinés par balle avant de s'enfuir. Le point avec Abdoulaye Traoré de la radio Bouctou, partenaire de VO Afrique à Tombouctou.
Hier soir, vers 21h30, des coups de feu ont été entendus du côté de la radio Tanit, c'est derrière le groupe scolaire Bahadou. Au centre-ville même, dans le quartier de Sarekena, 3 personnes qui ont été tuées sur place par un individu qui était habillé en boubou et avec une jaquette et qui a un physique Kalachnikov. Donc il est aussi bien turbané de telle sorte qu'il n'a pas pu être identifié. C'est un groupe de jeunes, ils sont pour la plupart généralement des animateurs. Ils font un grain devant la radio Tahanit. Cette nuit-là, ils sont devant une boutique qui est à côté de la radio. Et c'est là que l'assassin est venu les trouver pour les mitrailler. Là, du coup, il y a eu 3 morts sur place. Certains ont pu s'échapper et c'est ce qui les a vraiment sauvés. La personne n'a pas été identifiée et ni même pourquoi il a posé cet acte. Selon les témoins, il a quand même marché tout bonnement pour descendre un peu dans le quartier de Hamabangu. Comme il y a un peu d'obscurité devant, il s'est échappé. Parce que peut-être c'est une radio chrétienne. Certains pensent que c'est la cause pourquoi vraiment ça a été une cible. En réalité, on ne sait pas exactement.
Abdoulaye Traoré de la radio Bouctou, partenaire de VOA Afrique à Tombouctou.
Concernant toujours le Mali, le chef de la mission de l'ONU sur place, la MINUSMA, quittera ses fonctions en janvier. Mongui Amdi, ex-ministre tunisien des Affaires étrangères, sera remplacé par le Tchadien Mahamat Saleh Anadif. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé l'envoi de troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. Mais cette décision doit obtenir le feu vert de Bujumbura qui semble l'avoir déjà rejeté, John Lindon.
Selon un cadre de l'Union africaine, cet envoi des troupes reste soumis à l'accord de Bujumbura ou à défaut à celui des chefs d'État africains. Il est fort peu probable que les autorités burundaises acceptent un déploiement militaire sur leur sol. Un porte-parole du gouvernement estime que le Conseil de paix et de sécurité devrait plutôt envoyer une mission au Rwanda, d'où viennent les menaces à la paix et la sécurité du Burundi. Bujumbura accuse Kigali d'héberger une rébellion en gestation et presque tous les opposants burundais sont au Rwanda. Dans une interview accordée à une radio française, l'ancien président burundais Pierre Buyoya a mis en garde contre un risque de génocide et dénonce la volonté des dirigeants actuels du pays d'ethniciser la crise.
Référendum au Rwanda, 6,4 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer aujourd'hui sur la réforme de la Constitution. Un texte qui pourrait permettre au président Paul Kagame de se présenter pour un nouveau mandat et de diriger le Rwanda jusqu'en 2034 s'il le souhaite. D'ores et déjà, on s'attend à une victoire du oui. À suivre le reportage de notre correspondant sur place.
République centrafricaine, le chef rebelle du FPRC, Noureddine Adam, est activement recherché. C'est ce qu'annonce ce vendredi Jeffrey Hawkins, ambassadeur des États-Unis en Centrafrique, lors d'une conférence de presse à Bangui. Le diplomate américain salue par ailleurs la détermination des Centrafricains à braver les forces nuisibles qui veulent mettre à mal le processus électoral dans le pays. Il précise que les États-Unis s'opposent à toute tentative de division de la RCA. Nous écoutons l'ambassadeur Jeffrey Hawkins au micro de Freeman Sipila.
Il n'y a pas de république dans le nord du pays à part la République centrafricaine. C'est la seule république qui existe. Enfin, le gouvernement de transition l'a clairement démontré avec le référendum qui a lieu non seulement à Kagabandoro, mais presque partout dans la soi-disant république de Logan. Noureddine Adam est sanctionné par les Nations Unies. Ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas le droit de circuler. Ses biens internationaux sont gelés. Il est activement recherché. On a désigné quelques autres meneurs de troubles à Bangui. je dois dire que le processus est assez difficile au niveau du Conseil de sécurité et aussi dans chaque pays membre du Conseil de sécurité. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a pris soin de choisir deux individus dont le comportement est grave et qui sont des deux côtés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de donner des nouvelles sanctions contre deux individus qui sont normalement basés à Bangui, Harun Gaye et Eugène Ngaï Kossé. Noureddin Adam, on ne sait pas exactement où il se trouve. Et ça aussi, c'est un signe que ça ne prend pas son projet. Ça veut dire forcément que Noureddin Adam a échoué.
Jeffrey Hawkins, ambassadeur des États-Unis en RCA.
République démocratique du Congo, le parti présidentiel affirme se préparer contre toute tentative d'insurrection de l'opposition. À un an de l'échéance du mandat du président Joseph Kabila, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, dit organiser des activités pour alerter ses militants et mettre à niveau sa capacité d'agir.
En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro s'insurge contre le mandat d'amener délivré contre lui en France. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne y voit un outrage fait à la Côte d'Ivoire. L'ex-chef rebelle a été visé dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. S'exprimant devant les députés, Guillaume Soro a également qualifié de chimère l'affaire des écoutes téléphoniques avec le Burkina Faso. Il faisait ainsi référence à l'enregistrement téléphonique dans lequel il parlerait du putsch manqué de septembre au Burkina Faso.
Et dans le sud du Nigeria, 5 militants indépendantistes biafrais ont été tués par les forces de l'ordre. D'après un porte-parole de leur mouvement cité par l'AFP, l'incident s'est produit alors qu'ils célébraient l'annonce de la libération de Namdi Kanu, leader du groupe interdit peuple indigène du Biafra.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise en Syrie, les grandes puissances se retrouvent ce vendredi à New York et à l'ONU pour une solution à la guerre en Syrie. Elles sont en quête d'une résolution du Conseil de sécurité qui entérine un plan américano-russe pour un cessez-le-feu et un règlement politique. 17 pays et 3 organisations multilatérales, la Ligue arabe, se réunissent donc pour la 3e fois depuis fin octobre au sein du groupe international de soutien à la Syrie dans le cadre du processus diplomatique de Vienne qui a accouché le 14 novembre, on se souvient, d'une feuille de route pour la Syrie.
Le secrétaire américain à la défense Ashton Carter est en Afghanistan, un pays frappé par un nombre croissant d'attaques dans les régions de l'Est où le groupe terroriste État islamique est très actif. Carter a rencontré le ministre afghan de la défense Mohamed Massoum Staneghzai. Il a également présenté en avance ses voeux de nouvel an aux troupes américaines sur place. En réponse à la violence accrue, le président Barack Obama a décidé de maintenir près de 10 000 soldats américains en Afghanistan.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a pris des mesures contre les flux financiers en faveur du groupe État islamique. Le Conseil a adopté une résolution hier jeudi visant à couper les fonds du groupe terroriste. Jacob Lou est le secrétaire au Trésor des États-Unis.
Nous avons besoin d'une mise en œuvre, d'une coordination et d'une exécution efficace de chaque pays représenté ici et beaucoup d'autres. L'utilisation réussie de ces mesures de financement contre le terrorisme nécessite la mise en œuvre robuste, une profonde collaboration avec des partenaires privés, la coordination multilatérale intense et le partage de l'information.
Fusillade de San Bernardino en Californie. Le président américain Barack Obama rencontrera les familles des victimes de l'attaque terroriste ce vendredi à San Bernardino avant de se rendre à Hawaï pour 2 semaines de vacances avec sa famille. L'attaque terroriste avait fait, rappelons-le, 14 morts et 21 blessés. Les précisions avec Arzuma Compaoré.
Le président américain rendra une visite privée aux familles des victimes, a annoncé le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest. Les employés des services de santé publique du comté de San Bernardino, qui ont été tués par Saïd Farouk et son épouse Tashfin Malik, prenaient part à un déjeuner de Noël le 2 décembre dernier. L'attaque a fait 14 morts et 21 blessés. Pour Evelyn Godoy, dont la belle-sœur Aurora Godoy a été tuée dans l'attaque, cette visite ne leur fera pas tourner la page. Cette visite ne la ramènera pas. Selon Robel Teklib, beau-frère d'Isaac Amanios abattu dans la tuerie, Amanios admirait Obama et avait participé aux 2 campagnes présidentielles de 2008 et de 2012. Il aurait même fait le déplacement de Washington DC pour assister à l'investiture de Barack Obama en 2008. TechLib souhaite qu'Obama sache qui son beau-frère était. Sa présence sera réconfortante. Barack Obama poursuivra ensuite son chemin vers Hawaï, où il doit passer 2 semaines de vacances avec sa famille.
On reste toujours aux États-Unis où le Congrès vient d'abroger l'interdiction en place depuis 40 ans d'exporter du pétrole américain. C'est une victoire symbolique pour la majorité républicaine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et c'est sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale de charbon, énergie fossile la plus émettrice de gaz carbonique, va fortement ralentir jusqu'en 2020. L'agence indique également que pour la première fois, la demande mondiale de charbon a été stoppée en 2014. Ce ralentissement s'expliquerait principalement par la baisse de la demande chinoise et le renforcement des politiques environnementales à travers le monde. La production mondiale de tous les principaux produits du bois enregistre sa plus forte croissance depuis la récession économique de 2008-2009, selon les dernières données fournies par la FAO. Une information cruciale pour la vie de millions de personnes tributaires des forêts à travers le monde, selon Thier Linares-Juvenal, chargé de l'économie et des statistiques sur les forêts à la FAO. La production de granulés de bois, qui sont utilisés comme carburant, a établi un nouveau record en 2014, enregistrant une croissance de 16% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 26 millions de tonnes, en raison principalement de l'augmentation de la consommation en Europe, qui les utilise pour atteindre ses objectifs d'énergie renouvelable. Les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne vont reprendre sous peu, un accord ayant été finalement trouvé avec le prestataire, la société Saudi Bin Laden Group. Le litige qui opposait le Sénégal au groupe Bin Laden tournait autour de 64 milliards de francs CFA que réclamait le groupe Bin Laden pour finir les travaux. Cette somme représentait le 4e avenant réclamé par SBG.
Merci Anastasie pour la Minute Éco.
Merci de rester à l'écoute de VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonsoir Nicolas Pinot.
Bonsoir Bagassi.
On commence par la corruption et le dopage dans l'athlétisme, des révélations explosives de Lamine Diack.
Le Sénégalais, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui a dévoilé aux enquêteurs avoir reçu 1,5 million d'euros destinés à la campagne. C'est du propre du président Sall, de son prénom maquis, pour l'élection présidentielle sénégalaise. On s'en souvient, c'était en février 2012. En échange, Lamine Diack s'est engagé à couvrir les pratiques de dopage de la Russie et retarder des suspensions d'athlètes russes. C'est le quotidien français Le Monde qui révèle ce vendredi ses aveux passés par Lamine Diack. Je vous rappelle qu'il est mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé face aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales.
En football anglais, Gus Hiddink discute avec Chelsea.
Et oui, favori des bookmakers anglais pour prendre la succession de José Mourinho. Le portugais, on s'en souvient, licencié hier par Chelsea. Gus Hiddink a reconnu qu'il discutait avec le club de la capitale anglaise. « Je veux le plus d'informations possible avant de prendre ma décision », a déclaré le néerlandais au quotidien des Télégraphes. C'était ce vendredi.
Et en mondial des clubs au Japon, la finale, c'est ce dimanche.
Oui, le club argentin de River Plate qui affrontera le FC Barcelone, vainqueur hier du club chinois de Guangzhou Evergrande, 3-0. On rappelle, et c'est une déception, que les Congolais du tout-puissant Mazembe ont pris la 6e place de cette compétition.
Et pour terminer, un NBA, championnat de basketball nord-américain.
Cleveland a stoppé jeudi Oklahoma City, qui restait sur 6 victoires consécutives en s'imposant 104-100 grâce aux 33 points de LeBron James. Les Los Angeles Lakers ont fait illusion pendant 3 périodes face aux Rockets de Houston avant leur effondrement dans le 4e quart-temps, défaite 87-107. Enfin, Charlotte s'est imposée en prolongation face à Toronto 109-99 grâce aux 35 points de Jeremy Lin, l'une des stars de cette équipe.
Alors Nicolas, vous restez, on revient à Chelsea. On avait parlé un peu de Didier Drogba. Est-ce que vous en savez un peu plus ?
Et non, toujours pas. Par contre, Samuel Eto'o, qui prend du galon dans son club d'Antalya Sport, c'est en Turquie.
Comme quoi, Eto'o n'est jamais loin de Drogba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagassi Kouré, Morgan Guiriek en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Première escale, le Rwanda. Êtes-vous d'accord avec la constitution de la République du Rwanda, telle que révisée pendant l'année 2015?
C'est à moi de vous poser la question?
Non, c'est la question posée aux Rwandais. Ils devaient y répondre aujourd'hui à l'occasion d'un référendum. La réforme du texte suprême doit permettre au président Paul Kagame de se présenter pour un nouveau mandat et diriger éventuellement le pays jusqu'en 2034. On fait le point avec Maurice Marogan, notre correspondant sur place.
Les Rwandais ont commencé à voter ce vendredi pour le référendum qui devrait permettre le changement de la constitution. Le changement majeur est d'autoriser le président Paul Kagame à briguer un nouveau mandat. Des longues files d'attente d'électeurs s'étiraient devant les bureaux de l'ouverture à 7 heures. Plus de 6 millions de Rwandais étaient appelés à voter d'ici la clôture du scrutin à 15 heures. Les Rwandais doivent répondre par oui ou non à la question: êtes-vous d'accord avec la constitution de la République du Rwanda telle qu'elle est révisée pendant l'année 2015? Il fait peu de doute que le oui devrait remporter largement. Et, à la sortie, nombreux sont ceux qui souhaitent voir Kagame réélu en 2017.
On est venu voter massivement parce que on veut maintenir notre président au pouvoir parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le pays. On voit le pays maintenant qui est en train de se développer. On voit les gens qui sont vraiment très heureux de vivre dans ce pays.
Le référendum, ça doit être différent de la préférence du président Kagame. Je crois que le référendum, c'est juste une révision de notre constitution, juste pour permettre une transition vers des mandats plus fermes. Et le choix du président Kagame, ça s'explique de soi parce que pendant les 15 années qu'il a dirigé le pays, à moins qu'on soit aveugle, tout le monde voit le progrès qu'on a fait, la discipline qu'il a donnée au pays, l'image qu'il a donnée à notre nation, les bons programmes qu'il a mis sur pied pour la population. Je crois qu'il n'y a personne qui doute qu'il est capable de diriger le pays.
3 700 000 Rwandais ont demandé par pétition un maintien au pouvoir de Paul Kagame après l'expiration en 2017 de son mandat. Le dernier qui lui permet l'actuelle constitution. Ce qui se passe est le choix du peuple, a déclaré Kagame à la presse après avoir voté à Kigali.
Le peuple a son destin entre les mains. C'est à lui d'en disposer.
Cette révision est soutenue par l'ensemble des partis politiques homologués, à l'exception du Parti démocratique vert, qui a renoncé à faire campagne pour le non, estimant trop court le délai de 10 jours entre l'annonce du référendum et le vote. On attend les résultats provisoires dans la soirée. Maurice Magolane, VOA Afrique, Kigali.
Envoyé spécial du président Barack Obama dans les Grands Lacs, Thomas Perriello s'est joint hier soir aux manifestants burundais, ici devant la Maison Blanche, habillés en noir, bougie à la main. Ils étaient réunis pour faire le deuil en mémoire des civils tués le week-end dernier à Bujumbura, dans les quartiers contestataires contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Je ne sais pas s'il était habillé en noir, mais Eric Manirakiza était lui aussi sur place.
La présence de Thomas Pereiro dans ce recueillement des Burundais devant la Maison Blanche était plus que symbolique. Il faut savoir que nous sommes tristes pour toutes les vies perdues, les familles séparées, les gens qui ont perdu leur maison, quelle que soit leur affiliation politique ou leur appartenance ethnique. Beaucoup trop de vies ont été perdues. La communauté internationale doit accorder davantage d'attention à cette situation. Et je pense que des veillées comme celui-ci offrent une opportunité de faire en sorte que les Américains comprennent la situation très fragile de nos frères et sœurs au Burundi. Les négociations doivent commencer sans tarder, a-t-il ajouté, sans toutefois confirmer ou infirmer si le président tanzanien John Magufuli va désormais remplacer le président Museveni comme médiateur. Nous sommes très encouragés par le leadership du président Magufuli et la formation de son gouvernement. Je sais qu'il a un ministre des Affaires étrangères qui connaît très bien les problèmes liés aux réfugiés. et d'autres sujets. Et comme je l'ai dit, il semble y avoir une convergence de vues dans la communauté est-africaine qu'il n'y a plus de temps à perdre et qu'il faut aller à la table de négociation et que chacun doit être présent pour parler. Les négociations doivent respecter l'esprit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, a précisé M. Pereiro, qui a rappelé la position du gouvernement américain.
L'accord d'Arusha est le fondement depuis 10 ans de la paix au Burundi. C'est même un modèle de réconciliation post-conflit. Nous pensons que c'est une base importante pour avancer, mais encore une fois, tous les efforts pour répondre aux fautes des uns et des autres par la violence ne font qu'engendrer plus de morts. Cela doit être adressé lors d'une médiation régionale.
Malgré les multiples préoccupations déjà exprimées, les États-Unis continuent à collaborer avec Bujumbura et soutenir le peuple burundais, a dit M. Pereiro.
À Djibouti, un opposant est en résidence surveillée depuis ce matin, sans aucune notification sur ce qu'on lui reproche, sauf qu'il est convoqué demain à la police. Idriss Fall, agent à Djibouti, l'opposant d'Ara Ahmed Farah, qui a déjà été arrêté plusieurs fois dans le passé.
Je suis assigné à résidence ici à Djibouti, la capitale de la République de Djibouti, depuis ce matin à 9h par la police. Il y a un imposant dispositif policier a été mis en place très tôt ce matin et il est encore en place. Je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu ce matin vers 9h-9h30 une convocation de la police me sommant de me présenter demain à 8h30 dans un commissariat de police qui n'a pas, territorialement parlant, compétence sur moi, puisque c'est ailleurs que dans la circonscription administrative où j'habite. C'est dans ces commissariats que se trouve confisqué encore mon véhicule personnel qui m'a été pris de force alors qu'il est parfaitement en règle, j'ai présenté tous les papiers. Cela s'est passé le 14 décembre dernier et depuis les véhicules est immobilisé dans l'enceinte de ces commissariats où je dois me présenter demain matin à 8h30. Mon chauffeur est en état de séquestration depuis lundi également, lundi 14 décembre. Il a entamé une grève de la faim, il s'appelle Souleymane Omar Kawalier, il est aussi militant de l'opposition. Il est en grève de la faim et il est très mal en point en ce moment.
Mais ce n'est pas la première fois que vous avez des démêlés avec le régime d'Ismaël Omar Guelleh, non?
Ce n'est malheureusement pas la première fois. Comme je suis un opposant de longue date, je suis régulièrement, pour ne pas dire constamment, persécuté. J'ai fait beaucoup de séjours en prison, beaucoup de séjours en geôle, beaucoup d'assignations à domicile. Rien que pour la période 2013-2014, j'ai été arrêté ou assigné à résidence une vingtaine de fois, dont 6 incarcérations à la prison centrale des Gabot. L'accord cadre que nous avons signé, que l'opposition, la coalition des partis djiboutiens d'opposition, l'Union pour le salut national a signé avec le gouvernement le 30 décembre 2014, comme cet accord cadre a été mis à mort par non mise en œuvre par la partie gouvernementale, eh bien, les persécutions reprennent.
On avait cru comprendre qu'il y aurait un dialogue entre l'opposition et le pouvoir, non?
Il y a eu un accord cadre, effectivement, qui a été signé le 30 décembre 2014, mais cet accord cadre est resté inappliqué du fait de la partie gouvernementale. Il prévoyait notamment la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, paritaire, de manière à ce que la prochaine élection présidentielle, prévue pour avril 2016, se déroule dans la transparence, pour qu'elle soit une élection libre et démocratique.
Dara Ahmed Farah, opposant djiboutien.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le président de la commission de la CEDEAO, Kadré Désiré Ouédraogo, a annoncé hier que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest se sont entendus pour interdire le voile islamique intégral dans leurs pays respectifs afin de mieux lutter contre la multiplication des attentats. Cette décision qui concerne tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne, cette incitation a été prise à l'issue d'un sommet de 2 jours de la CEDEAO Le Tchad a déjà interdit le voile intégral sur l'ensemble de son territoire depuis juin, à la suite d'un double attentat suicide à N'Djamena. Le Cameroun et le Niger ont pris des mesures similaires en juillet dernier dans certaines de leurs régions frappées par des attaques kamikazes. Pour une analyse, Idrissa Seydoudia, joint à Ouagadougou, l'imam Ismaël Tchenderobeo du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique.
Déjà, c'est des raisons de sécurité samedine qui permettent d'expliquer cela. Et on estime que le voile intégral ne permettrait pas de voir le visage des individus et pour cela, il faudrait l'interdire dans le cadre de la lutte contre les attentats. Mais c'est peut-être une décision assez délicate, malheureusement, qui a été prise. Parce qu'il faut peut-être faire de la pédagogie pour qu'on ne perçoive pas ça comme une atteinte à la liberté individuelle. Il vous souviendra que dans le cadre de l'ONU, par exemple, il y a une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, et notamment qui fait obligation aux États membres de garantir la liberté religieuse en public et en privé, individuellement et collectivement, aux ressortissants de ces pays signataires-là. Parce que le muslim bashing, on le connaît un peu à travers les médias, et cette association malencontreuse entre l'islam et la violence, si on ne fait pas assez de pédagogie, je pense que ça va poser problème et à ce niveau déjà.
Mais on dit dans la décision que les pays devront agir en prenant en compte leur propre situation et leur environnement culturel. Donc, il semble que ce ne sera pas quelque chose qui sera imposé à l'ensemble de la CEDEAO.
Ça, c'est dans le principe. Parce que vous savez que, généralement, là, les dispositions législatives ou les conventions, quand on les signe, c'est pour aller vers ce qu'on va appeler, entre guillemets, un ordre social désirable. Donc, les États, peut-être, dans le cadre de l'évaluation par les pairs, peuvent peut-être se sentir un peu plus en marge que d'autres parce qu'on n'a pas mis en place cette disposition communautaire. Donc, déjà, il y a peut-être cette incitation à peine voilée là, d'aller dans ce sens-là. Et il est bien heureux qu'on demande aux uns aux autres de tenir compte de ce contexte-là pour ne pas prendre des décisions et peut-être les appliquer partout parce que nous ne sommes pas sur un même niveau pour ce qui est du risque de terrorisme. C'est vrai que pour le Burkina, il semble que nous ne sommes pas hors de la menace terroriste. Et c'est comme je l'ai dit, il faut absolument éviter dans ce genre de situation qu'il y ait de la frustration, qu'il y ait une mise à l'index.
Oui, je voudrais vous demander justement si c'est vraiment indispensable dans l'islam ou si ce voile dit intégral relève tout simplement des us et coutumes.
Oui, en fait, c'est à ça, effectivement, je voulais en venir. Effectivement, il n'y a pas un texte qui en fasse une obligation qui prescrive aux musulmans de porter un voile intégral. Mais dans la mesure où il s'agit d'une liberté individuelle, il faut bien évidemment que les uns et les autres puissent en jouir conformément à ce que les États se sont engagés à garantir à leurs ressortissants dans le cadre des conventions de l'ONU sur l'interdiction de la discrimination.
Voilà, c'était Ismaël Tchenderbego du CERFI, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Il était joint à Ouagadougou.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et voilà, on se quitte sur Zouk Machine Maldon. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. Présentation Bagassi Koura et Morgan Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com et voa.com 24h sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.